Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal. Patience Ngalula Mbombo à la présentation.
Au sommaire de ce journal, les forces loyalistes lancent une offensive pour reprendre le contrôle des Mirangi, Kihala et Lusuli, ces villages utilisés comme base arrière depuis plus d'une semaine par le M23. C'est au cours des violents combats qui les ont opposés depuis ce vendredi matin au M23 pour le contrôle de la cité de Kanyabayonga. À Kinshasa, des cas récurrents de diabète chez les enfants sont de plus en plus enregistrés ces dernières semaines dans les structures sanitaires. Le médecin soignant des enfants alerte sur la situation et appelle les parents à veiller à l'hygiène de vie des tout petits en leur évitant notamment trop de sucreries. L'invité de ce journal, c'est l'abbé Hyacinthe Irakoze du diocèse de Tiangungu au Rwanda. Il participe au Bukavu, au forum sur la conservation de l'environnement, un forum organisé par la commission diocésaine Justice et Paix, archidiocèse de Bukavu. Bonsoir à toutes et à tous. Ce journal part du Nord Kivu. Des violents combats opposent depuis ce vendredi le FRDC aux rebelles du M23 pour le contrôle de la cité de Kanyabayonga. Tôt ce matin, l'armée a lancé une offensive pour reprendre le contrôle des Mirangi, Kihala et Lusuli. Ils sont présentés par des sources militaires comme des bases arrières utilisées depuis plus d'une semaine par les rebelles du M23 dans leur volonté d'occuper Kanyabayonga. Ce village qui ouvre la voie vers Kikuku, Nyanzale, Mutanda et Kishishe dans les territoires de Rutshuru sont situés à plus ou moins 30 km de Kanyabayonga qui reste toujours sous le contrôle des FRDC. L'armée cherche ainsi à contrôler Mirangi, Kihala et Lusuli pour, affirme des sources militaires, couper tout appui aux troupes rebelles positionnées à une dizaine de kilomètres de cette commune rurale stratégique du territoire des Lubero. Entre-temps, au moins 35 civils ont été tués en 3 jours dans des attaques attribuées aux rebelles des ADF dans des villages situés à l'ouest du territoire des Beni. Nous sommes toujours au Nord Kivu. Une situation qui a provoqué les déplacements de la population vers des milieux jugés sécurité. La société civile plaide pour des opérations militaires d'envergure pour sécuriser la population dans la région. Marc Marofimbo pour des précisions.
Jeudi après-midi, 7 civils ont été tués et 2 cases incendiées par les ADF à Makodou, un village du secteur de Benimbao. La société civile rapporte que l'armée est intervenue pour limiter les dégâts. Avant cette attaque, le mardi 4 juin, 16 civils ont été tués par les ADF à Massaou, dans la localité de Bapakombe Pendekali. Une dizaine d'autres civils ont été pris en otage, des commerces ainsi que des officines pharmaceutiques pillées par les assaillants, rapportent des sources locales. Tôt ce jeudi matin, 5 nouveaux corps de civils ont été découverts dans les villages voisins de Mounundi et 7 autres sur la rivière Loulo. Ces derniers ont été ligotés avant d'être tués. Au total, ce sont 35 civils qui ont été tués en 3 jours dans des attaques attribuées aux rebelles des ADF dans le territoire de Beni. La société civile du secteur de Benimbao dit être exaspérée par cette situation. Elle demande à l'armée de lancer de toute urgence des opérations pour sécuriser la population dans la région. Nous n'avons pas eu la réaction des FRDC. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Du côté de l'Ituri, environ 4000 déplacés et retournés, victimes des atrocités des rebelles ADF, bénéficient des soins gratuits pendant un mois dans les aires de santé de Rubingo, Tondoli, Bitima et Boga, au sud du territoire d'Irumu. Ils ont également reçu des articles ménagers essentiels dans le cadre des projets réponse rapide de l'UNICEF, exécutés par les programmes de promotion des soins de santé primaire, PPSSP. Selon cette organisation, l'objectif est de lutter contre la mortalité de cette population paupérisée par la guerre et améliorer leurs conditions de vie. Isaac Remoyope.
La persistance de l'insécurité due aux atrocités des ADF a entraîné le déplacement d'environ 4000 personnes dans les chefferies de Banyarichabi et Baïmaboga. Ces dernières vivent dans des conditions difficiles à cause de l'inaccessibilité aux champs qui sont occupés par ces hommes armés, ce qui a réduit le pouvoir d'achat de la population pour se faire soigner, constate l'ONG PPSSP. Conséquence, plusieurs cas de mortalité sont enregistrés dus à la malnutrition. Face à ces défis, l'ONG PPSSP a lancé depuis jeudi le projet d'administration des soins gratuits pendant un mois continuant à se déplacer et d'autres retournés dans les aires de santé des Rubingo, de Tondoli, Bitima et Boga. Les malades graves sont référés à l'hôpital général de Boga. Ces sinistrés ont également reçu des articles ménagers essentiels composés des ustensiles de cuisine, des couvertures, des pagnes, des bâches et des kits d'hygiène pour les femmes en âge de procréation. Son chargé de communication indique que l'objectif de cette action humanitaire est de sauver des vies humaines en détresse. Pour rappel, ces déplacés étaient dépouillés de tout et plusieurs structures sanitaires incendiées et saccagées par des ADF dans cette entité. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans le Maïndombe, une pénurie de produits alimentaires sévit depuis une longue période dans la cité de Kwamout, chef-lieu du territoire qui porte le même nom. Cela parce que la population locale, qui ne vit que des activités agricoles et de la pêche, n'accède plus à la forêt, craignant la violence perpétrée par la milice Mobondo qui loge dans les forêts depuis plus de 2 ans. C'est la société civile locale qui a alerté ce vendredi 7 juin 2024. Son président Martin Fouta déplore la lenteur dans la mise en application de l'accord de paix récemment initié par le gouvernement et appelle à une intervention pour imposer la tranquillité à Kwamout. Les points avec vous, Irène Mbomaluzolo.
Les habitants de Kwamout Cité et ses environs de la province du Maïndombe ont du pain sur la planche pour s'alimenter. Ici, les denrées alimentaires de première nécessité, dont les manioc, les maïs, les arachides, les poissons, l'huile de palme et autres se font de plus en plus rares. Situation consécutive à l'activisme des miliciens Mobondo qui jusque-là équipent cette région, empêchant ainsi la population locale à vaquer librement à ses activités champêtres. Martin Fouta est le président de la société civile de Kwamout.
Parce que la population ne passe pas au champ. Donc, dans le département, ils ne passent pas, ils sont maintenant fixés ici à Kwamout. Parce que la situation sécuritaire demeure toujours la même chose. Depuis que le président avait initié la rencontre entre les deux parties, et jusque-là, le processus est en cours. On n'a rien emboîté pour calmer la tension et permettre aux uns des autres de pratiquer les champs.
Martin Fouta invite le gouvernement congolais à restaurer son autorité à Kwamout afin de ramener la paix et permettre la relance des activités agricoles par la population. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Parlons santé à présent avec cet appel que lancent de plus en plus des médecins qui prennent en charge des enfants à Kinshasa. Ils appellent les parents à veiller à l'hygiène de vie des tout petits en leur évitant notamment trop de sucreries. Ils sont nombreux, ces enfants qui sont suivis aujourd'hui pour des cas de diabète, ce qui pousse certains centres hospitaliers actuellement à faire systématiquement des tests de glycémie pour des enfants présentant certains signes pour leur éviter des complications à l'avenir. Un reportage de Miradi Fouini et Babel Pongo Massimango.
Parmi les structures qui prennent en charge des enfants diabétiques, on compte le centre hospitalier Boyambi de l'armée du salut dans la commune de Kinshasa. Ici, on suit plus de 200 enfants. À la base, plusieurs facteurs, l'hérédité, oui, mais aussi l'alimentation et le mode de vie. D'où son appel aux parents à éviter trop de sucreries aux enfants et à les pousser à bouger. Docteur Didier Colladio, un des médecins soignants.
Il nous faudra corriger que ces aliments qui prennent beaucoup trop de sucre puissent être de plus en plus mis à l'écart.
L'alerte donnée par des médecins de ce centre a amené d'autres structures comme l'hôpital pédiatrique de Kalimba Mbelembe a procédé systématiquement depuis quelques mois aux tests de glycémie pour certains cas. Docteur Catherine Akele, son médecin directeur.
C'est comme ça que nous nous sommes dit, on va faire un peu plus attention aux enfants qui viennent avec des maladies graves ou en coma. Et c'est là qu'on a commencé à trouver qu'il y avait des enfants qui avaient des taux de sucre élevés.
Parmi les signes du diabète chez l'enfant, Dr Didier Colladio cite ceci.
Un enfant qui n'avait pas l'habitude, par exemple, de faire pipi au lit, il commence à faire pipi au lit. L'enfant commence à maigrir, à réclamer de l'eau à tout moment. Il y a la faiblesse, manque de concentration, il est tout le temps fatigué.
Pour ce qui est du diabète en RDC, le programme national de lutte dit se battre pour avoir de quoi financer des études pour des statistiques globales. Jusque-là, il n'existe que des données parcellaires.
Direction la province du Maniema. 21 nouveaux médecins sont inscrits au tableau de l'Ordre des médecins et ont prêté serment le jeudi 6 juin dans la salle de la cercle privé de la SNCC à Kindu. Le président de l'Ordre des médecins a à cette occasion exhorté les autorités politico-administratives de tenir compte des qualités de médecins lors des affectations. Docteur Charles Omesumbu Chako, président de l'Ordre des médecins, en parle au micro de Florence Kizalunga.
Aux autorités, nous rappelons juste l'article 7 de notre code de déontologie qui stipule que nul ne peut exercer la médecine s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre des médecins. Ce sont ces gens-là pour qui nous venons de recevoir le serment aujourd'hui qui sont habilités à être affectés et d'autres qui les ont précédés dans l'inscription au tableau de l'ordre des médecins. Il n'est donc pas question que l'on puisse se retrouver avec des gens qui n'ont jamais été inscrits au tableau de l'ordre qui soient affectés. Et pour ça, nous savons que la politique intervient à tous les niveaux, mais là, c'est un domaine réglementaire, ce sont des normes qui doivent être suivies. Ce sont ces gens ici qui doivent être affectés. Ils sont maintenant dans les droits d'exercer la médecine. C'est eux qui doivent recevoir de l'autorité, bon, des arrêtés. Nous demandons aux autorités de les affecter. Bien sûr, il y a une procédure. C'est vrai, la médecine, c'est une science, c'est un art aussi. Parce que même pour exercer les trainings, ils doivent avoir des numéros, ils doivent être inscrits comme médecins de l'État congolais. Ils sont dans les droits.
Au Congo central, deux des huit quartiers de la cité de Kinzamvwete, en territoire de Sekebanza, sont plongés dans l'obscurité depuis plus d'une année. Cette situation est consécutive à une panne sur les deux transformateurs électriques qui alimentent ces quartiers. Le coordonnateur de la société civile du territoire de Sekebanza, qui livre l'information à Radio Kapi, indique que ce manque d'électricité est à la base de plusieurs problèmes tels que la paralysie des activités économiques dans ces quartiers. Les points avec Nana Plurich Mambou.
Ces deux quartiers de la cité de Kinzamvwete où les habitants broient du noir depuis plus d'une année sont Maleka et Kasavubu. Ce sont des quartiers les plus populaires du territoire de Sekebanza qui abritent les barrages hydroélectriques d'Inga. Et plusieurs activités économiques y sont concentrées. À en croire Didier Dinzei, coordonnateur de la société civile du territoire de Sekebanza, à cause du manque de l'électricité, les bureautiques, les maisons de vente de vivres frais et certains débits de boissons sont fermés. Les agisteurs frappés par le manque du courant sont depuis au chômage. Une autre conséquence, c'est les regains des vols à domicile et les vols de fils électriques dans ces quartiers. La même source affirme avoir contacté le chef du centre SNEL Kinzamvwete pour une solution à cette problématique. Cependant, ce chef du centre SNEL dit toujours attendre de sa hiérarchie les nouveaux transformateurs électriques pour répondre urgemment à ces problèmes qui dérangent la population. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Autre nouvelle, dans la ville d'Uvira, la crise persiste entre la Direction générale des impôts, DGI, et la Fédération des entreprises du Congo, FEC. La rencontre des rapprochements chapeautée par le maire d'Uvira et tous les membres du Conseil de sécurité mercredi passé n'a pas permis aux partis en conflit autour des taxes TVA d'harmoniser leurs vues. Jean Kassami nous décrit cette crise.
La délégation de la DGI à cette rencontre convoquée par le maire d'Uvira a promis de faire rapport à sa hiérarchie de Kinshasa. Les opérateurs économiques décident de maintenir leur position comme l'indique son président Zembe Zembe Jean-Pierre.
Les commerçants reprennent leur travail et la cessation de tous les impôts de la DGI, notamment IBP, IPR, TVA, ICA, nous avons refusé de tout payer jusqu'à ce que nous aurions la réponse à nos revendications. Et nous avions interdit que les membres de la DGI ne passent plus dans nos magasins, nos entreprises, en attendant que la régularisation soit faite par la hiérarchie.
La DGI Uvira considère cette position des opérateurs économiques comme une rébellion fiscale. Kalinde Jean-Marie Vianney, chef de centre, indique que les scellés de quelques maisons de commerce ainsi que les gels des comptes des insolvables sont des actes légaux.
Le recouvrement forcé est déclenché, soit sceller la boutique, soit geler le compte qui est alimenté pour que l'on puisse récupérer les fonds. On a gelé deux comptes et le président il a instrumentalisé les autres opérateurs économiques.
Cette crise entre la FEC et la DGI Uvira entre à son cinquième jour ce vendredi. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Niger, une nouvelle audience s'est tenue le matin de ce vendredi à la Cour d'État autour d'une éventuelle levée de l'immunité de Mohamed Bazoum pour pouvoir le juger notamment pour haute trahison. La plus haute juridiction du Niger, créée après les coups d'État, avait renvoyé l'affaire à ce vendredi pour répondre à une demande des avocats du président renversé. La défense demandait à accéder au dossier et à communiquer avec son client. La grève se poursuit dans les banques du Mali. Après une première journée très suivie, ce jeudi 6 juin, le SINABEF, syndicat des banques et assurances du Mali, maintient son appel à la grève pour obtenir la libération de son secrétaire général. Emprisonné mercredi, Amadou Ba est également numéro 2 de l'UNTM, la première centrale syndicale du Mali. Dans ce contexte très tendu, l'opposition appelle à manifester contre les difficultés économiques et plus largement contre les régimes en place.
L'invité.
Notre invité, c'est l'abbé Hyacinthe Irakoze du diocèse de Changungu au Rwanda. Jean Kasamila croisé à Bukavu dans un forum sur la conservation de l'environnement, un forum organisé par la commission diocésaine Justice et Paix, CDJP, archidiocèse de Bukavu. Prêtre, directeur de la commission diocésaine Justice et Paix et de la Caritas du diocèse de Changungu, Hyacinthe Irakoze soutient que la communion entre l'Église catholique du Rwanda et celle de la RDC est un pont vers la paix dans la région des pays des Grands Lacs. Il s'entretient avec Jean Kasami.
Monsieur l'abbé Hyacinthe Irakoze, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présentement à Bukavu pour quelle fin ?
Nous sommes ici pour le lancement d'un projet que nous implémentons en consortium avec la CDJP Bukavu, qui est le projet de la conservation de l'environnement, la protection de l'environnement. Alors, dans ce projet, nous avons comme objectif mettre en pratique les conseils du pape François que nous trouvons dans sa lettre inscrite Laudato Si, qui est la lettre sur la protection de la maison commune qui est notre terre. Maintenant, la question écologique est une question mondiale dans le monde entier. Tout le monde est interpellé à protéger l'environnement, comme ici à Bukavu, comme chez nous aussi à Changugu. Il y a des atteintes humaines à l'environnement.
Qu'est-ce que l'Église devrait faire de part et d'autre pour la meilleure conservation de l'environnement qui est notre terre commune?
Alors, chez nous au Rwanda, comme ici à Bukavu, même dans le monde entier, la première chose que l'Église fait, c'est informer les consciences, c'est éveiller les consciences, pour que tout le monde se rende compte de cette crise écologique que nous sommes en train de vivre. Alors après, il faut que nous tous, nous ayons ce souci de l'environnement et nous mettons en pratique les conseils et les stratégies que les États aussi que des personnes privées prennent en faveur de la protection de l'environnement.
Les relations entre l'église de Changugu au Rwanda et l'église de la RDC ici au Sud Kivu à Bukavu sont au bon fixe, pendant que au niveau de la politique entre le Rwanda et la RDC, les relations sont tendues. Qu'est-ce que l'église fait pour dépasser ces clivages politiques, ne pas se laisser emporter ni influencer par les considérations politiciennes de part et d'autre?
Vu ces considérations politiques de part et d'autre, ces considérations politico-diplomatiques entre les deux pays, l'Église cherche à être un pont, le pont qui unit les deux peuples, le peuple rwandais et le peuple congolais. En fait, nous tous, nous sommes un seul peuple. Nous subissons les mêmes conséquences de la crise écologique et aussi nous jouissons le même bien de l'écologie. Alors, l'Église cherche à être un pont pour les deux peuples.
Vous sentez que ce pont-là est vraiment solide?
Moi, je dirais que le pont est solide. Nous sommes ici, plus de 60 personnes, pour ce projet en faveur de la protection de l'environnement. Nous avons traversé, nous avons donné la conférence ici, et les gens d'ici, ils nous écoutent et ils sont très contents. Je vois que au-delà de la crise politico-diplomatique que nous vivons aujourd'hui, vraiment, les deux peuples se sentent, le même peuple se sentent unis. S'il y a des événements qui nous unissent, qui nous font des rencontres, on voit que vraiment c'est le même peuple. Et l'Église joue un rôle très, très important, très visible.
L'Église au milieu du village, c'est bien cela ce que vous démontrez. De retour au Sud Kivu, quel message vous allez ramener à l'Église du Rwanda?
À l'église du Rwanda, le message que nous allons amener de retour, c'est que nous sommes appelés à l'unité. Nous sommes appelés à la fraternité et à la communion. Sur la communion, sur la fraternité, sauvera son monde.
Donc, avec cette fraternité, vous avez l'espoir que les relations diplomatiques qui sont en veille aujourd'hui vont certainement s'améliorer dans l'avenir.
Moi, j'y crois. Moi, je crois toujours à la capacité de l'homme à changer. Capacité à changer pour le bien, pour la communion, pour la fraternité. Puisque le peuple des Congolais d'ici à Bukavu et de Tchangou témoigne que nous sommes des frères. Il y a des Rwandais qui viennent ici pour le commerce, il y a des Congolais qui viennent chez nous pour le commerce. D'après tout, on voit que nous sommes un seul peuple.
Monsieur l'abbé, nous vous disons merci et bon séjour à Bukavu.
Merci beaucoup, je vous souhaite un beau travail.
L'abbé Hyacinthe Irakoze du diocèse de Tchangou au Rwanda s'entretenait avec Jean Kassami. Et c'est la fin de ce journal Vespéral sur Radio Kapi, mis en onde par Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa, sous la supervision et coordination de Jude Bilan Dankoumar et Jacques-Yves Molima. Patience Ngalula Mbombo, c'est moi la présentation. Merci de votre sympathique attention.